France Inter. Nathalie Azoulay, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi écrivez-vous ?
Je vais faire une réponse peu glamour que j'emprunte à Philip Roth pour accoucher laborieusement de mon existence.
Pour qui écrivez-vous ?
Pour une bande de gens que j'imagine être des amis, qui sont drôles, intelligents, sans complaisance et qui me disent « Oh là, t'en fais trop là ».
Si vous étiez un livre, quel en serait le titre ?
Au fin fond des forêts allait-il se cacher ?
Votre expression préférée de la langue française ?
Le cas échéant. J'aime bien cette expression parce que je ne la comprends jamais immédiatement.
Celle qui vous insupporte ?
On ne va pas se mentir.
Ah, c'est pareil. Romancière, autrice ou écrivaine ?
Romancière, écrivaine, autrice un peu moins.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassel.
Bienvenue dans l'émission Etc. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'autrice d'un roman à la fois drôle et extrêmement fin, la romancière Nathalie Azoulay pour son livre Toutes les vies de Théo, publié récemment aux éditions POL et qui a obtenu le prix Transfuge du meilleur roman de la rentrée d'hiver. Difficile de résumer ce livre, tant on risquerait de tout simplifier, mais en gros, c'est l'histoire de Léa et Théo, un couple mixte. J'aime pas tellement l'expression couple mixte, mais en soi, c'est ça. Il est chrétien, elle est juive, ils s'aiment d'amour tendre, mais le temps passe et l'actualité. Les massacres du 7 octobre viennent percuter leur relation. Elle plonge, lui s'éloigne. Mais ont-ils un jour été vraiment proches ? Nathalie Azoulay a un faible pour les tragédies. Que peut l'amour face aux lois de l'éducation, de la religion ou de la politique ? Titus n'aimait pas Bérénice, c'est le titre d'un de ses livres publié en 2015 qui avait obtenu le prix Médicis. Jean Racine, auteur de L'ambiguïté et des désirs asynchrones, gouverne encore, je crois, ce nouveau roman de Nathalie Azoulay. Et pour la peine, elle nous lira un extrait du Bérénice de Racine tout à l'heure. C'est le classique de la semaine. Enfin, puisqu'il sera largement question dans cette émission du conflit israélo-palestinien, j'ai demandé à la journaliste et autrice Salomé Parent-Rajdi de nous accompagner. Sa bande dessinée, publiée l'an dernier aux éditions Les Arènes avec le dessinateur Deloupi, m'avait vraiment marquée. C'est le fruit d'une longue enquête entamée en 2018 sur les relations amoureuses en Israël et dans les territoires palestiniens. Que peut l'amour donc face à des dilemmes de cette profondeur ? Nous en discuterons avec nos autrices, mais aussi avec nos libraires francophones qui ont plein de questions et des conseils de lecture en fin d'émission. Vous écoutez Etc, c'est parti.
Etc.
Salomé Parent-Rajdi, bonjour.
Bonjour.
Et rebonjour à Nathalie Azoulay. Nathalie Azoulay, parce que vous avez écrit un roman autour du 7 octobre qui aborde le conflit israélo-palestinien, mais aussi la question de l'antisémitisme, la religion, on vous a qualifié de courageuse dans plusieurs articles. Qu'en pensez-vous ?
Je dirais que le courage est toujours un peu moins sensible en soi quand la nécessité est forte. Et donc, comme j'ai eu un sentiment de nécessité en commençant à écrire ce livre, je ne me suis pas sentie du côté du courage. Mais je comprends pourquoi on dit ça. C'est parce que le sujet est brûlant et que c'est une patate chaude entre les mains de tout le monde.
Vous n'êtes pas posé de questions en l'écrivant ?
Si, bien sûr, je m'en suis posée même en l'ayant terminé, en le rendant à mon éditeur, en discutant avec mon éditeur, à toutes les étapes du processus, je m'en pose encore, mais ça ne m'a pas freinée.
Mais brûlant, ça veut aussi dire nécessaire.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai eu le sentiment, après cet événement historique, massif et dramatique, qu'on avait vécu des mois intéressants, entre guillemets, sur le plan humain, et psychologique et culturel, et j'ai eu envie de rendre compte de cette période.
En vous lisant, on a le sentiment d'une autopsie. Autopsie des petits arrangements individuels au sein du couple, mais aussi de l'hypocrisie de la société dans son ensemble. C'était quoi le point de départ du livre ?
Le point de départ, ça a été de choisir un point de vue qui ne m'était pas familier, qui n'était pas très proche de moi, qui était celui d'un homme moderne, d'un homme français, d'un homme éduqué, cultivé, avec une mère un peu à moitié allemande, qui s'avance dans cette histoire avec confiance, avec solidarité et avec amour. Et c'était un point de vue à la fois d'une partie un peu prenante du conflit, si on peut dire, mais qui reste quand même un point de vue extérieur, qui reste un point de vue malgré tout un peu détaché, et le point de vue d'un tiers. Et j'ai eu envie de raconter cette histoire du point de vue d'un tiers.
C'était une prise de distance nécessaire pour vous ?
Oui, j'avais besoin de cette distance. Je crois que sans elle, je ne me serais pas lancée dans cette histoire. Mon point de vue, je le connais, je n'ai pas besoin de l'écrire. Mais en revanche, il m'intéressait de le regarder à travers les yeux de quelqu'un d'autre et de le mettre en observation et en orbite aussi, parce qu'il est forcément confronté à d'autres points de vue.
Alors, il y a cette histoire d'union mixte où tout a l'air d'aller bien et finalement tout craque. On pourrait réduire le roman à une démonstration d'échec de la mixité, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas en réalité dans le couple de Léa et Théo ?
D'abord, ça commence par fonctionner très bien. C'est-à-dire que c'est une véritable histoire d'amour qui se lance avec élan suite à un coup de foudre et qui atteste en fait d'une complémentarité entre ces deux personnages qui s'emboîtent très bien. C'est-à-dire que Théo a été biberonné à l'idée que la Shoah était un crime incommensurable et irréparable, mais il a quand même eu pour mission de devoir le réparer. Et quoi mieux qu'une juive française d'origine polonaise pour mettre en action cette réparation. Donc quand il croise la route de Léa, à la fois elle le charme, et puis elle est une aubaine du point de vue de ce qui le tient, en fait, de sa colonne vertébrale. Et dans l'autre sens, Léa, donc frappée de manière familiale et historique par le drame de la Shoah, est une Française tout à fait intégrée dans la société française, et pas très juive, en fait, si on peut dire. Mais elle a quand même cette histoire derrière elle, et en elle. Et quand elle croise la route de Théo, elle se dit qu'avec lui, elle va pouvoir se renforcer, se protéger, se rassurer et s'ancrer en France.
Alors c'est un point d'équilibre, ce que vous décrivez, un point d'équilibre rendu possible par l'absence d'événements. J'ai une question pour vous, Salomé Parent-Rajdi. Vous avez été correspondante en Israël entre 2017 et 2020. Vous y êtes retournée. Est-ce que vous y êtes retournée déjà depuis le 7 octobre ?
Non, pas encore. Non, j'y suis. La dernière fois que j'y suis retournée, c'était en 2022, en mars 2022.
Ah oui, donc vous n'êtes pas retournée depuis. Mais est-ce que les couples dont vous parlez dans votre BD ont résisté ? Est-ce que vous avez eu des nouvelles ?
Alors j'ai des nouvelles de tous de manière plus ou moins régulière. Aux dernières nouvelles, les couples ont résisté. Je sais qu'il y en a certains où ça a été, notamment, je pense à un couple qui est celui avec Marwan et Alexandra, qui est un couple donc franco-palestinien. Et eux, donc, c'était toute la question autour de, concrètement, est-ce qu'il faut rester, et notamment choisir, entre guillemets, la cause palestinienne, parce que lui, il a un statut particulier qui fait que s'il part, il risque de perdre son statut de résident de Jérusalem, et elle, qui a toujours voulu, qui est française, qui voulait rentrer en France. Et eux, je sais qu'après le 7 octobre, ça a été très compliqué, parce qu'ils se sont beaucoup posé la question, justement, de est-ce qu'on reste ensemble ou pas, parce que se posait la question, qui était déjà présente, je pense, en germe, de cette idée de où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on s'installe, où est-ce qu'on fait notre vie. Et que là, après le 7 octobre, bah, elle était devenue de plus en plus prégnante, parce que lui voulait d'autant plus rester à Jérusalem, et elle voulait d'autant plus partir de Jérusalem et faire sa vie en France ou ailleurs en Europe.
Vous avez eu des nouvelles de Lucie Aharich et Tsaï Halevi ?
Pas de nouvelles directement, je les suis sur les réseaux sociaux. Mais j'ai...
Pour eux, ça va ? Alors, je parle de Lucie Aharich parce que c'est une journaliste palestinienne. Et Tsaï Halevi est acteur israélien, juif israélien. Enfin, les deux sont israéliens, mais voilà. Vous écrivez dans votre livre qu'à un moment, quand ils se sont mariés, il y a cette phrase qui est très belle, on signe un accord de paix. C'est ce qui était marqué sur les invitations.
En Israël, les couples comme ça, mixtes, ça représente à peu près... Je crois que c'est 0,5% des mariages, et que quand il y a des... Parce qu'en fait, on peut pas, là-bas, en Israël, c'est pas possible de se marier quand on n'est pas de la même confession, ou alors souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils vont...
À Chypre.
Se marier, voilà, à Chypre, et ensuite, ils reviennent faire reconnaître leur union en Israël. Mais eux, c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est qu'ils incarnent le fait qu'ils soient aussi célèbres, ils incarnent vraiment ce que peut être le couple mixte, en plus. Donc c'est ça, ils sont israéliens, palestiniens, juifs... musulmans. Et eux, je sais qu'après le 7 octobre, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Enfin, en tout cas, de l'extérieur, on a l'impression que ça les avait plutôt aussi renforcés. Et ça a plutôt, je pense, qui a été compliqué. C'était notamment du côté de Lucie Aharich, qui a aussi beaucoup été critiquée, mais déjà avant le 7 octobre, parce qu'elle avait des positions, entre guillemets, assez...
Contre Netanyahou et...
Oui, mais aussi assez très... très critique du pouvoir palestinien aussi. Et notamment, elle avait eu beaucoup de choses, très critique du Hamas déjà avant, donc après le 7 octobre, elle l'était d'autant plus. Et c'est un peu ce qu'elle raconte déjà dans la BD, dans son témoignage, c'est-à-dire qu'elle a toujours un peu ce truc de où est sa loyauté, entre guillemets, elle le ressent comme ça, c'est à la fois les Palestiniens des fois la critiquent en disant qu'elle a un discours trop pro-israélien, et à l'inverse justement certains Israéliens disent qu'elle a un discours trop pro-palestinien. Enfin, donc je trouvais que c'était ça qui était intéressant sur ce côté-là, ouais, toujours d'être dans l'entre-deux.
C'est très intéressant. Salomé Parent-Rajdi, Nathalie Azoulay, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour évoquer l'éternel combat entre passion et devoir, dilemme qui a noirci bien des pages dans l'histoire de la littérature. Mais avant ça, on écoute Enchantée Julia, Les Santolines.
Désespéré quand je vois le monde, je me lève et je vois les feuilles tomber. J'ai vu d'en haut que la terre est ronde, que le vent tourne. J'ai plus de montre et plus de temps, je suis désemparé mais je dois avancer. En hiver le temps s'invite à danser, je cours. Avec un félin dans un appartement, au moins ils sont ce que je ressens, mais pas fou. La terre est toujours en mouvement, tu ne pourras plus m'empêcher d'avancer. Moi j'aime quand ça va doucement, je l'avoue. Et tous les jours j'attends qu'il pleuve. En feu je plonge dans le fleuve.
Vous écoutez Etc. et nous sommes toujours en compagnie de la journaliste et autrice Salomé Parent-Rajdi et de la romancière Nathalie Azoulay. Nathalie Azoulay, dans l'émission, nous recevons chaque semaine des libraires francophones. Et cette semaine, vous avez été lue par notre libraire suisse, Alexandre Dimitrievitch. Bonjour Alexandre.
Bonjour Lilia.
Alors vous travaillez à la librairie Delphica à Genève et vous me disiez qu'au moment de la lecture, vous avez été surpris par le prologue du roman de Nathalie Azoulay.
Oui, c'est ça. Bonjour Nathalie Azoulay.
Bonjour.
En effet, je dois vous confier que je suis rentré dans toutes les vies de Théo un brin méfiant, notamment parce que je suis resté complètement interdit devant cette scène d'ouverture dans laquelle vous avez choisi de mettre en scène ce jeune homme moderne, vous l'avez dit, dans un stand de tir qui se la joue un peu cow-boy, au bras de celle qui deviendra sa femme. Mais en fait, si ce livre est génial, c'est parce que, évidemment, ni le nom de Théo, ni le lieu de cette rencontre n'ont été choisis par hasard. Et à ce titre, j'ai trouvé justement que la manière dont vous avez fait résonner le prologue et votre épilogue, c'était du grand art. D'ailleurs, si vous arrivez si bien à nous tenir en haleine tout au long du bouquin, je trouve que c'est notamment grâce à votre sens du rythme, car aussitôt présenté, cette scène nous emporte vers une autre, puis vers une autre, dans un style que j'ai beaucoup aimé car il était direct et qu'il m'a permis rapidement de voir se dessiner le portrait d'une famille riche en contradictions au bord du gouffre après les événements du 7 octobre. Et dans ce contexte brûlant, ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est que vous ne cherchez jamais à justifier les actions ou les choix de vos personnages. Vous nous donnez à vivre ce besoin d'appartenance communautaire extrêmement fort, une sorte d'instinct de conservation qui détruit tout, isole aussi, bref, des sentiments qu'il nous est impossible à ressentir si nous ne venons pas d'une femme juive comme celle-ci. Mais le vrai tour de force encore, c'est qu'en nous racontant comment la politique infiltre nos relations, vous ne cherchez jamais à imposer un message univoque et vous donnez une confiance absolue au lecteur, car plutôt que d'expliquer ou de surligner les enjeux, vous laissez les situations se faire et se défaire par elles-mêmes. J'ai eu l'impression d'accéder à une sorte de boîte noire de la conscience humaine en vous lisant. C'est donc un roman que j'ai trouvé très intelligent, qui nous parle de ressentiment, d'exaltation patriotique et qui nous demande de questionner évidemment notre statut d'observateur, surtout à travers les yeux de ce Théo.
Nathalie Azoulay, boîte noire de la conscience humaine, vous avez envie de réagir ?
Ça me plaît beaucoup parce qu'en effet, ce que j'ai essayé de faire, c'est une observation libre, c'est-à-dire avec toutes les pensées qui traversent mes personnages, leurs ambiguïtés, leurs contradictions, leurs pensées avouables, leurs pensées inavouables. Et j'ai organisé comme ça des interactions et des flux entre eux où on ne se bride pas, où on ne se censure pas et où ce qu'on fait apparemment est en fait souvent motivé par des choses qui sont plutôt refoulées, interdites et encore une fois inavouables. Et donc, c'est vrai que cette situation du 7 octobre, de ce qui précède, de ce qui va suivre, elle est très propice à ce flux contradictoire, pâteux, difficile, inextricable et tragique, au fond. Mais c'est vrai que pour le traiter, pour le fluidifier, si je puis dire, j'ai adopté un rythme de comédie et c'était pour moi très nécessaire.
Alexandre, vous parliez des yeux de Théo et vous aviez une question à poser à Nathalie et à Azoulay à ce sujet.
Oui, en fait, moi ce que je me suis dit, c'était qu'à travers cette image de Théo, vous cherchiez à évoquer peut-être, j'en sais rien, à vous de me dire, la façon dont l'Occident regarde justement ces conflits avec distance et maladresse. Donc à travers en fait ces relations intimes, les tensions que vous avez présentées tout au long du roman, est-ce que vous avez voulu illustrer la difficulté qu'ont certaines personnes à suivre le rythme d'un monde qui change extrêmement vite ?
Oui, c'était une de mes volontés, c'est-à-dire que je pense que c'est difficile à suivre. Je pense que où qu'on soit sur le théâtre des opérations, le terrain de jeu, on a du mal à regarder comme il est le point de vue de l'adversaire, en fait. Et mon personnage de Théo n'est pas un adversaire, puisqu'il est, a priori, un peu détaché des deux camps, si on peut appeler ça comme ça. Et il est lui-même un observateur malmené. C'est-à-dire que au démarrage du livre, il a tout pour comprendre. D'ailleurs, il comprend tout. Et puis, au bout d'un moment, il n'arrive plus à suivre parce que la façon dont sa femme vit les choses est à la fois complètement légitime et complètement invivable. Et d'une certaine manière, le rejette. Donc, j'avais envie que ça s'exprime parce qu'on est en France, alors vous êtes en Suisse, mais je crois que c'est à peu près... ça, tout se ressemble à peu près. Et il y a des tonnes de gens en France qui ne sont pas partie prenante du conflit, pour qui le conflit s'invite sans arrêt à domicile, dans la presse, enfin on en entend parler toute la journée, et on en parle toute la journée. Ça donne des échanges heurtés, violents parfois, alors que les gens ne sont pas directement concernés. Donc j'avais aussi envie d'interroger cela.
Merci Alexandre. Nathalie Azoulay, moi ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre livre, et ça rejoint ce que vient de dire Alexandre, c'est effectivement votre style très direct, votre lucidité. Vous ne vous faites aucune illusion sur rien. Théo et Léa se rencontrent dans un stand de tir et vous parlez d'emblée d'un couple qui cachait bien son jeu. Qu'entendez-vous par là ?
Alors, c'est en effet apparemment un couple qui tombe amoureux, un couple qui vit en harmonie cet amour, mais qui, en son sein, abrite déjà quelques fissures, abrite déjà quelques contradictions, et de quoi nourrir des tensions qui vont se développer. Donc, cacher son jeu, c'est s'aimer au regard du monde, et c'est développer, enfin, vivre ce coup de foudre, mais quand même un gun à la main. Donc, il y a quelque chose de violent qui est comme ça, qui tire en arrière, qui donne beaucoup de cachet à cette rencontre, et qui lui évite une sorte de mièvrerie ou de fadeur, ou je ne sais quoi. Mais c'est un romantisme corsé, et finalement, qui n'a pas dit son dernier mot.
Vous avez raison, en fait, on sent que tout le long du livre, Théo a son gun à la main, qu'il est en position défensive. Léa devient comme lui aussi, et d'ailleurs, elle retourne dans un stand de tir, ce qui en dit long. Comment vous qualifiez-vous ce couple ?
Ben, c'est un couple moderne, c'est-à-dire qui réalise, qui exauce un rêve moderne, que les cultures se rencontrent, s'épousent et s'enrichissent l'une l'autre.
C'est possible, ça ?
Ben oui, quand même, et heureusement, et j'espère que ce le sera encore. Mais c'est une injonction moderne, puisque autrefois, on se mariait entre soi. Et donc, il y a à la fois beaucoup de défis, d'ambition dans cette modernité, dans ce romantisme moderne, mais il y a de l'inconfort, il y a de la difficulté. Et donc, j'avais envie de raconter les deux, et comment les périodes de crise intense, comme celles qu'on a vécues et qu'on continue de vivre, peuvent être traversées avec confiance et succès, comme vous le disiez tout à l'heure, Salomé, mais aussi avec échec. Et ça dépend, en fait.
Le drame, c'est que tout le monde a ses raisons. Dans votre livre, vous qualifiez Léa, je cite, d'énorme butin pour Théo, car il a trouvé une femme juive qui pourra laver la culpabilité de sa généalogie allemande. Et de son côté, Léa se vante d'avoir enjuivé son breton de mari après lui avoir fait un enfant. Et en même temps, on a le sentiment que c'est aussi une protection pour elle, qu'il lui faut perdre un peu en judéité. En fait, on referme le livre en se disant que rien n'est jamais gratuit.
Ah bah de toute façon, moi je suis convaincue que rien n'est jamais gratuit, même dans l'amour et peut-être même surtout en amour. Et qu'on a en effet toutes ses raisons et chacun ses raisons, comme disait Renoir dans La Règle du jeu. Et que l'humanité et les relations humaines sont des intérêts mutualisés, mais c'est pas du tout pour dévaloriser.
C'est pas négatif,
non, c'est pas négatif. C'est qu'on a tous, voilà, un désir de vivre, une nécessité.
Ça casse l'idée de l'amour romantique, du coup de foudre.
Mais ça n'existe pas beaucoup, ça, en fait. Mais ça n'empêche qu'il peut y avoir des coups de foudre avec des intérêts derrière et des intérêts bien sentis qui sont spectaculaires, flamboyants, enivrants, grisants, comme ceux que vivent Théo et Léa.
Salomé, parent HD, vous qui avez rencontré de nombreux couples mixtes, enfin de nombreux, je ne sais même pas s'ils étaient si nombreux que ça, mais vous en avez rencontré au cours de votre enquête, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Nathalie Azoulay vient de dire ?
En fait, ça me faisait penser au fait que je pense que là-bas, le fait d'être que les gens soient sur place, en fait, ça fait que de facto, c'est impossible, je pense. Alors moi, en fait, l'idée... Pour dire des histoires de la BD, c'était vraiment de travailler autour des histoires de transgression. Et en fait, c'était l'idée de dire que les gens, par amour ou par désir, ils vont un peu sortir justement du groupe, entre guillemets, auquel ils appartiennent, que ce soit un groupe religieux, que ce soit un groupe, je sais pas, ça va être donc les Palestiniens, les Israéliens, les Juifs, les Musulmans, les Chrétiens, etc. Mais ça va être aussi la communauté ultra-orthodoxe, ça va être d'appartenir même à une communauté géographique, donc c'est-à-dire d'être un Palestinien de Naplouse, d'être un Palestinien de Gaza. Et qu'en fait, à chaque fois, par amour, pour ce désir, il y a une première transgression qui est d'aller vers justement un groupe qui est autre, donc que ce soit justement, par exemple, ce jeune ultra-orthodoxe qui, pour vivre ses désirs, sort de sa communauté. Ou après, donc voilà, il y a le couple ultime qui est ce couple mixte, mais l'idée c'était de raconter d'autres histoires de transgression.
Oui, l'homosexualité.
Voilà. Pour moi, ce que ça montre, c'est que, en tout cas là-bas, je crois pas trop, dès qu'on est dans cette transgression, c'est impossible d'avoir un amour qui est, pour le coup, léger ou gratuit, dans le sens où il est forcément impacté par d'autres couches qui font que c'est impossible de vivre un amour comme ça, détaché du réel, mais ça c'est, je pense que c'est vrai partout, mais
disons que
là-bas, oui, de faire ça, ça demande beaucoup d'efforts, en tout cas, et d'être par exemple un couple comme Lucia Harish et Tsaïa Levy, ça demande beaucoup de courage, je pense, parce que c'est pas tant...
Mais c'est un travail.
C'est à la fois eux deux, voilà, oui, et puis il faut assumer auprès de leur famille, il faut assumer auprès du groupe auquel on appartient, justement, de vivre cet amour-là.
Il y a un exemple dans votre livre qui m'a vraiment frappée, c'est celui de la première personne que vous citez, Lana, 34 ans, elle est arabe-israélienne, et elle a très envie de rencontrer un juif israélien. Et vous écrivez même que de nombreux Israéliens juifs fantasment sur les femmes arabes. Alors ça rejoint ce que vous venez de dire sur la transgression ultime et le désir. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater ?
Bah, oui, je trouve que ce qui est intéressant avec Lana, c'était à la fois de montrer quelque part que le fait que Alaa, parce qu'en fait l'histoire de Alaa, donc c'est une jeune palestinienne qui vient de Nazareth, donc du nord d'Israël,
qui est blonde aux yeux bleus,
voilà, qui est une grande blonde aux yeux bleus, et qui explique en fait que pendant tout un moment avant de se marier, elle faisait des dates avec des juifs israéliens, et vraiment elle assume cette position en disant: parce que je trouve que les Palestiniens sont trop conservateurs, et concrètement, avant le mariage, si j'ai envie de coucher avec des hommes sans avoir de problème, je préfère le faire avec des hommes qui sont déjà géographiquement loin de Nazareth, parce qu'elle va à Tel Aviv. Mmh. Et en plus, en disant, voilà, comme ça, j'aurai pas de compte à rendre, on viendra pas me dire concrètement que j'ai couché avant le mariage et qu'il fallait pas, etc.
Il y a quand même une double contrainte, c'est-à-dire que elle, du côté palestinien, effectivement, elle peut pas coucher avec qui elle veut, parce que ça ne se fait pas. Et puis, du côté, quand elle rencontre des juifs israéliens, elle ne peut pas leur dire sa véritable identité.
Voilà, toute l'histoire, c'est ça, c'est que elle ne dit pas, par exemple, elle disait que quand elle fait un date, elle dit pas qu'elle vient de Nazareth, elle dit qu'elle vient du Nord. Elle fait attention aux mots qu'elle emploie, elle fait attention, par exemple, si elle reçoit un message, elle m'expliquait que il faut pas que la personne avec qui elle est en rendez-vous voit qu'elle reçoit un message qui est écrit en arabe. Donc, il y avait toute cette...
Les femmes sont doublement victimes de ça, quand même.
Ah oui, bah, je pense qu'elle, ce qu'elle incarne justement quand elle dit ça, c'est que... Enfin, genre, c'est pas nouveau, mais de dire qu'il y a cet enjeu-là, pour elle aussi, qui était vraiment un enjeu de corps et de la possession. C'est ce qu'elle dit, de dire... en fait, c'est on fait fantasmer les Israéliens... Enfin, cette idée de dire les juifs israéliens fantasment parce qu'on est palestinienne, donc on est l'autre, et en même temps, on est... Enfin, elle a une formule, elle dit les mecs se battent même pour nos chattes. Je pense qu'elle a bien résumé la chose, qui est de dire que oui, le corps des femmes est aussi un enjeu dans les conflits, au final.
Salomé Parent-Rajdi, Nathalie Azoulay, dans un instant, on entrera dans vos ateliers d'écriture à toutes les deux. Et on parlera aussi d'un grand classique de la littérature, Bérénice de Racine, avec cette question: si Titus n'aimait pas Bérénice, Théo aime-t-il vraiment Léa ?
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux.
Vous écoutez, etc. C'était William Scheller, un homme heureux. Et nous sommes toujours en compagnie de Salomé Parent-Rajdi et de Nathalie Azoulay.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassen.
Salomé Parent-Rajdi, dans votre BD, vous vous mettez en scène dès le début pour expliquer que vous aviez commencé l'enquête bien avant, le 7 octobre, en 2018, je crois. Et en fait, vos plans ont été perturbés par ce massacre. C'était quoi l'objectif du projet initialement ?
Moi, quand je suis arrivée là-bas, j'étais vraiment une très jeune journaliste, enfin, dans le sens où c'était mon premier travail et que je me suis un peu confrontée au départ à la question de comment est-ce qu'en fait on intéresse à un conflit qui, quelque part, n'intéresse plus trop, enfin, ou dans le sens, moi j'avais vraiment j'avais un certain enthousiasme, même pour des choses dures, mais je veux dire, parce que je commençais à travailler. Et je me souviens vraiment des fois de me percuter un peu aux rédactions à Paris qui me disaient « Oui, mais ça, Salomé, on l'a déjà fait. » Donc essaye de trouver une façon de raconter les choses de manière un peu décalée. Et après, je pense aussi parce que j'aimais bien l'idée de raconter, de dire que l'intime, c'est une manière de raconter un conflit tout aussi valable qu'une autre approche. Et donc c'est à partir de ça où tout ça, je me suis dit « Mais en fait, les relations intimes des gens, ça peut être une manière très intéressante de raconter le conflit, et justement à la fois le conflit, mais les sociétés qui vivent là-bas, qui sont tellement diverses. Enfin, par exemple, la société israélienne, c'est tellement des gens qui viennent de partout avec des histoires ultra différentes que voilà, c'était une manière de... Et qui parle à tout le monde aussi, de raconter cet endroit.
On a le sentiment que les choses allaient quand même mieux avant le 7 octobre. Est-ce que dans les relations entre arabes israéliens, juifs israéliens, est-ce que les choses étaient plus apaisées ou est-ce que ça n'a jamais changé ?
Si, je pense qu'elles étaient. Enfin, je pense que c'était déjà très compliqué. Moi, je suis arrivée là-bas de 2018 à 2020, enfin de 2007 à 2020, et je dirais qu'on est toujours, on est déjà sur un espèce de faux plat, de début un peu de tension, parce qu'il y a quand même eu le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem. Enfin, donc il y avait déjà un début de tension. Moi, je me rappelle plusieurs fois, on se disait, est-ce que c'est le début de la troisième intifada ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais je pense que par rapport à ce qui s'est passé après le 7 octobre, ça n'a rien à voir. Mais je pense qu'il y avait déjà une espèce de... Pas de conflit, parce que Jérusalem a toujours été là, mais en tout cas d'épuisement, je pense, des deux côtés, et de notamment les jeunes générations, vraiment d'acceptation du fait que, par exemple, la solution à deux États, les accords d'Oslo, tout ça, c'était derrière nous et que ça ne se ferait pas. Enfin, vraiment, pour le coup, la jeunesse palestinienne et israélienne était vraiment dire ça, il faut trouver d'autres façons de communiquer.
Je me suis posé une question en lisant votre bande dessinée. Est-ce qu'un autre format aurait été possible ? Est-ce que ces couples auraient accepté d'être filmés, par exemple ?
C'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait compliqué, mais je pense qu'à l'époque, ils auraient peut-être accepté. Mais pour moi, la BD, c'était vraiment idéal dans le sens où ça permettait de montrer des choses qui ne sont pas forcément montrables, que ce soit d'un point de vue métaphorique, parce que par exemple justement Anna dont on parlait tout à l'heure, qui dit notre rapport est schizophrène, notre rapport au sexe est schizophrène, donc ça par exemple comment est-ce qu'on l'incarne. Mais je pense qu'après il y avait une certaine intimité que les gens voulaient bien me raconter, et déjà qui n'était pas forcément évidente, parce que j'ai aussi beaucoup de gens qui m'ont dit ah non mais c'est...
Oui, à la gynécologue par exemple, ça aurait été
impossible de la filmer. Donc non, je pense que la BD c'était pour ça une bonne manière à la fois de raconter les choses, sinon les gens n'auraient pas accepté. Et puis aussi pour moi c'était l'idée, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis le personnage de la Salomé journaliste, c'était de montrer l'endroit, à quoi ça ressemble justement, parce que je pense que c'est pas forcément facile si on n'a jamais mis les pieds, à quoi ça ressemble de passer un checkpoint, à quoi ça ressemble la route entre Jérusalem et Tel Aviv.
Là, vous pouviez montrer plus voilà, de choses. Nathalie Azoulay, j'ai adoré la manière avec laquelle vous passez d'une scène à une autre, de manière très rapide. À un moment vous écrivez, du stand de tir à la salle d'accouchement, il n'y avait guère que quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Moi, j'ai trouvé ça osé. C'est très cinématographique, surtout ces changements de plan, ces associations. Est-ce que c'était voulu ?
Oui, c'était voulu parce que j'ai suivi un tempo rapide et que dans un tempo de comédie, on fait ce genre de choses, c'est-à-dire on franchit les étapes, on accélère les processus. Et là, entre le moment de la rencontre et le moment de la naissance de leur fille, j'ai pas voulu m'appesantir davantage, puisque j'ai dit qu'ils avaient été très heureux. Et ça suffisait, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était les péripéties après.
Oui, c'est drôle de le dire et de l'écrire. Est-ce que ce rythme rapide correspond à un rythme rapide dans l'écriture aussi, ou est-ce que ça a été un long travail pour donner cette impression de rapidité?
Non, je crois que j'ai écrit aussi dans un tempo rapide. J'ai écrit en 4 mois ce livre. J'avais évidemment fait une observation plus longue, puisque je l'avais commencé même avant le 7 octobre. C'est une observation d'une vie, en fait, mais qui a été intensifiée par les événements.
Et, vous aviez déjà tout, en fait, en tête?
J'avais beaucoup de choses. Et puis j'avais écrit en 2005 un roman qui s'appelait Les Manifestations, où j'avais déjà été en observation sur ce thème. Et donc, j'avais beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'au moment où je me suis dit « je vais l'écrire du point de vue de Théo », c'est tout de suite ajouté l'idée de faire une comédie et donc d'aller vite sur les événements.
Et sur la question de Théo et votre proximité avec ce personnage, j'ai le sentiment, pour vous avoir beaucoup lu, que vous êtes assez habité par le masculin. Il y a beaucoup de personnages de frères dans votre œuvre, d'activités plutôt associées aux hommes, le codage, le tir. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous visez juste, on peut dire. le masculin, c'est l'autre continent, donc forcément c'est à la fois mystérieux, fascinant, attirant. On fait beaucoup de mal aux hommes ces derniers temps, je trouve, mais bon, on va pas se risquer là-dessus. Et donc c'est vrai que moi j'ai envie de comprendre, j'ai envie de... C'est vrai que le livre d'avant qui s'appelait Python, j'étais en observation dans une salle de machine, si on peut dire, où il y avait que des codeurs. Et cette masculinité à l'épreuve de la concentration, du cryptage et finalement de l'industrie des temps modernes me semblait être un lieu pas très exploré et qui était fortement érotique. Donc c'est vrai que je cherche un érotisme à l'endroit d'un masculin qui prend des chemins détournés, on va dire.
C'est l'exotisme de l'étranger, de l'étrangeté?
Ouais, de la sexualité, de la séduction, de tout ce qu'on peut imaginer entre un homme et une femme. Mais sans doute aussi de cette étrangeté dont on nous a beaucoup parlé dans l'autre sens, c'est-à-dire le féminin vécu comme un continent noir. Alors moi, je retourne l'invitation et l'exploration, et j'aime bien faire ça.
Alors on va rester sur le sujet de l'ambiguïté de l'exploration, puisque c'est l'heure du classique de la semaine.
Lilia Hassen, etc.
Nathalie Azoulay, la dualité tient une place essentielle dans votre œuvre, et j'ai donc choisi un extrait du Bérénice de Jean Racine pour cette raison. Dans cette pièce de 1670, Titus est tiraillé entre son amour pour Bérénice et la raison d'État, sa fonction d'empereur de Rome qui lui interdit de se lier à un sang étranger. Dans la scène 4 de l'acte 4, Titus s'apprête à annoncer sa décision à Bérénice, et on sent son tiraillement à travers les pronoms, notamment il se questionne lui-même, passant du tu au je. Vous avez accepté de nous en lire un passage.
Eh bien, Titus, que viens-tu faire ? Bérénice t'attend. Où viens-tu, téméraire ? Tes adieux sont-ils prêts ? T'es-tu bien consulté ? Ton cœur te promet-il assez de cruauté ? Car enfin, au combat qui pour toi se prépare, c'est peu d'être constant, il faut être barbare. Soutiendrai-je ces yeux dont la douce langueur sait si bien découvrir les chemins de mon cœur ? Quand je verrai ces yeux armés de tout leur charme, attachés sur les miens, m'accablés de leurs larmes, me souviendrai-je alors de mon triste devoir ? Pourrais-je dire enfin, je ne veux plus vous voir ? Je viens percer un cœur que j'adore, qui m'aime. Et pourquoi le percer ? Qui l'ordonne ? Moi-même.
C'est beau ça, je viens percer un cœur que j'adore, qui m'aime. Et pourquoi le percer ? Qui l'ordonne ? Moi-même. Nathalie Azoulay, Titus aimait-il Bérénice ?
Oui, mais il ne l'a pas préférée. Alors, est-ce que l'amour est toujours une question de préférence ? C'est un autre sujet. Moi, il me semble que oui.
Et Théo et Léa ? Théo aime Léa ?
Oui, Théo aime Léa, mais c'est vrai qu'il
ne l'a pas préférée non plus.
Il l'a préférée longtemps. Il l'a quand même choisie et il l'a épousée, ce que n'a pas fait Titus avec Bérénice. Mais disons qu'il y a une espèce de menhir qui tombe dans leur maison.
Sandrine Babu, de la librairie L'Instant, dans le 15e arrondissement de Paris, est en studio avec nous. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
La BD de Salomé par Rajdi vous a beaucoup intéressée. Je vous laisse la parole.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé aller à la rencontre de ces hommes et ces femmes avec vous, que j'ai découvert. J'ai été frappée par la façon dont ils arrivent à vivre leur vie amoureuse dans des contextes qui sont tout sauf simples, hein, comme on l'a évoqué, vous l'avez évoqué plus tôt. On sent quand même de l'espoir, malgré tout, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, donc ces couples à la fois binationaux ou de religions différentes. Parfois, c'est plus sombre. Alors, j'aurais pu parler de beaucoup de personnes rencontrées, mais j'ai choisi donc de parler de l'histoire de Mohamed, qui est ce jeune homme gay que vous deviez rencontrer sur place. Et puis, quand vous arrivez, il n'est pas là. Il est parti aux États-Unis. Il n'a pas pu rester. En fait, il entretenait des relations avec des hommes sur une appli de rencontre. Et il a été piégé par le Hamas. Et je pense peut-être que ça s'est joué à pas grand-chose, hein, qu'il soit confronté à des problèmes beaucoup plus graves. Alors, ces témoignages nous permettent de mieux comprendre, à travers ces histoires intimes, le politique, le quotidien en Israël, dans les territoires occupés, dans la bande de Gaza. Ça devient très concret, en fait. Et j'ai été étonnée que les personnes vous confient des éléments aussi intimes sur le désir, le sexe. Enfin, voilà, c'est qu'on ne s'attend pas forcément à ça. Mais peut-être que vous avez la qualité d'arriver à les faire parler. Je voulais aussi dire un mot sur les dessins de Zach Deloupi qui sont magnifiques. On est dans les bleus orangés, il y a la qualité des couleurs, mais aussi dans le dessin, il y a un côté pédagogique, mais vraiment dans le bon sens du terme. Hein. On parlait des checkpoints, on visualise vraiment les lieux où vous êtes allé. Et donc vous écrivez, les gens vont continuer à s'aimer et vivre des histoires. C'est un message plein d'espoir. Vous avez toujours cet espoir ?
Oui, enfin, je pense qu'il y a... Enfin, quelque part, c'est peut-être un peu impensif de dire ça, mais que peu importe ce qui se passe, les gens continuent à avoir des histoires d'amour, à avoir du désir. Alors après, je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où les tensions, ou en tout cas les complications qui peuvent être liées à ces histoires d'amour, notamment, je pense là aux couples mixtes, je pense qu'elles sont plus exacerbées aujourd'hui que jamais, et que ça demande d'autant plus de courage de pouvoir les assumer. Mais je pense que oui, enfin en tout cas... Sinon, il n'y a plus rien à faire. Évidemment que les gens continuent à avoir des histoires d'amour qui sont comme ça dans une transgression et qui demandent du
courage. Il y aura une suite à la bande dessinée ?
Pour l'instant, ce n'est pas prévu qu'il y ait une suite, mais il pourrait y avoir totalement une suite parce que les personnages...
On a envie de les suivre.
...continuent à avoir des histoires et après, il y a plein de... Enfin, moi, il y a plein d'histoires que je voulais faire et que je n'avais pas l'occasion de faire, notamment faute de place, mais quand on commence à réfléchir à comme ça... Qu'est-ce qu'on pourrait raconter sur cet endroit-là via ce prisme-là ? Je pense qu'il y a encore plein de gens dont il faudrait raconter l'histoire.
Sandrine Babu, sur ce sujet, vous avez une question sur la question de l'espoir à poser à Nathalie Azoulay aussi.
Oui, alors j'ai relevé plein de phrases que j'ai adorées dans votre livre, mais je n'aurai pas le temps de les citer ici. Mais à un moment, vous écrivez « Personne ne parvenait plus à se mettre à la place de personne ». Et je me demandais si cette phrase pouvait un peu résumer votre livre.
Oui, c'est-à-dire que dans mon livre, il y a un jeu de chaises musicales où on arrive à se mettre à la place de l'autre jusqu'à un certain point et jusqu'à un certain moment. Et vient un point de rupture où ça ne marche plus, en tout cas entre Théo et Léa.
Et vous, vous arrivez à vous mettre à la place de Théo jusqu'au bout ?
Oui, parce que moi, c'est mon travail. C'est mon travail de changer de point de vue. C'est ce que j'aime dans le roman, c'est qui me permet vraiment de changer de situation et de perspective en tournant autour des sujets.
Et vous y arrivez toujours ?
Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est plutôt au lecteur, mais disons que c'est une ambition chez moi qui ne me quitte pas. Et je n'aime pas rester ancrée dans un seul point de vue, avec un seul personnage, je me sens frustrée. Et c'est pour ça que j'aime tellement le roman, je l'ai un peu délaissé dans le livre précédent. Et en fait, j'y suis revenue avec beaucoup de gourmandise et d'appétit.
Merci Sandrine Babu. Pour finir, j'ai une petite question d'actualité pour vous, Salomé Parent-Rajdi. Sur la couverture de votre BD, il est écrit « Reportage en Israël et en Palestine ». J'ai dit tout à l'heure « territoire palestinien » dans ma présentation. Je ne sais pas exactement ce que ça change. Mais je voulais savoir comment vous aviez accueilli la récente sortie de Trump sur Gaza, qu'il voudrait transformer en Riviera.
Comment j'ai accueilli ça ? J'ai accueilli ça avec stupeur, avec... un peu d'effroi. Je pense qu'il faut vraiment surveiller ce qui se passe en ce moment et que depuis le début, enfin depuis le 7 octobre et là on voit tout ce qui se passe à Gaza en ce moment, je pense qu'on est vraiment sur un point de bascule enfin dans le conflit israélo-palestinien et je pense que l'arrivée de Trump va encore rabattre des cartes. Après je pense que comme ça des espèces de plans un peu autour de Gaza de on va en faire une espèce de Riviera, un nouveau Singapour, c'est pas la première fois que ça existe. En fait, ça fait longtemps qu'il y a eu, dans les plans de prêt précédents, qu'il y a eu cette discussion-là autour de Gaza qui incarne toujours cette espèce de, oui, à la fois d'Eldorado et qui a notamment été pour les Gazaouis, pour les Palestiniens à une certaine époque, cet endroit où ils faisaient bon vivre. Mais oui, je pense qu'il faut être très attentif et qu'il faut prendre très au sérieux Trump, peu importe ce qu'il dit comme ça de manière un peu en l'air. Et je pense aussi que quelque part, ça ouvre aussi un boulevard pour l'extrême droite, notamment israélienne, qui attend peut-être que ça aussi pour mettre en place. Ça va poser des questions sur est-ce qu'il va y avoir une recolonisation de Gaza. Enfin, je pense qu'en fait, on est à un moment où, mais globalement, dans le monde, il faut être prêt à tout. Enfin, je pense que, ouais.
Merci Salomé Parent-Rajdi, merci Nathalie Azoulay. On rejoint nos libraires francophones dans un instant pour leurs conseils de lecture. Mais d'abord, on écoute Ness et Buchy, Vendredi à Londres.
Sur mon dos, y'a du sucre et je gère comme il faut avec ma tête de ricain du sud. Un peu d'huile dans un sac Salomon, tu parles sur nous et les infos remontent. 2012, j'écoutais l'apogée sur un Blackberry noir, banlieusard hérital, fier de mon héritage. Nique les racistes, vive mes racines. Hein. Ouvre tes yeux et tes oreilles, c'est moi qui paiera. C'est toi qui écoute, c'est moi qui achète. C'est toi qui réclame, c'est moi qui régale. Je suis moitié Snoop Dogg et à moitié Raekwon. Tu captes. Je suis avec BU, je suis bien dans le vaisseau. Y'a mon blast sur la liste et mon son dans le caisson. Je fais kiffer les feux, mais je fais kiffer l'ingé son. Dis-lui. Le vendredi à Londres, le samedi soir à Paris. Le dimanche, pépère, je recompte pépette. En boucle dans ma tête comme un sample. Je l'aime, elle le sait, elle le sent. Les blèmes dans le ventre, les yeux dans le vent. Le game, on est deux dans le sang. Marche à deux dans le centre. Je suis pas à plaindre, des frères j'en ai peu, des mains j'en ai deux, des fans j'en ai plein, j'allume, je m'éteins. Dans le nord, dans le sud, je me sens fort au-dessus. BUNS, on a retourné les salles. Plus dans la cave, on a changé d'étage. On a gommé les tâches et empilé les tâches. Dis-lui.
Mais combien de gens n'ont pas cru en nous, je sais pas, je sais qu'ils sont mordent les doigts. Avec NES, on arrive comme Gogeta, ils font tous des signes de croix. Vendredi à London, samedi soir à Paris, trop de soleil au pays, moi je voulais de l'ombre. Maintenant je veux le soleil, les pépettes, le Wari, je sais que le blast sera légendaire sur la tombe. Monte dans la navette quand t'entends le gong, monte dans la navette que je tiens à ma blonde. Monte dans la navette si t'es pas encore dedans et que t'écoutes encore des trucs à la con. Elle bump que mes sons dans la caisse, mais je l'évite comme le colère à la peste. Quand tu deviens big, il faut remplir l'assiette. Quand tu deviens riche, il faut changer d'adresse. Là, je vais la retourner comme une crêpe à Brest. Je vais la bloquer si jamais elle me texte. Pour dire qu'elle aime pas trop le son, je dis son blague. Mais malgré tout, elle-même, elle me dit que je suis le best. Ok, je vais péter des chaînes, mais je sais que ses fils de pitch préféraient nous voir en cage.
Ok, je vais péter Boucher, je vais relire mon 16 histoire de les choquer sur le track.
Appelle les labels, chaque projet on les braque.
Les cases on les coche,
les codes on les cache.
J'étais le timide qui était au fond de la classe qu'on faisait jouer au cash. J'parlais pas trop aux gens, j'avais quelques blocages.
Moi, c'était le contraire, j'pensais qu'au cash. J'parlais au taspé, j'parlais au gaz. J'parle d'elle au passé, mon cœur il est cassé, mon joint il est tassé.
Ceux qui font tout pour que je change, ceux qui me payent pour que je chante. C'est mes frères, on a tous le même sang. Puis, remets du gaz et remets de l'essence.
Je remets du gaz, je mets pas de tabac. Je mets pas de filtre, je mets pas de taga. Ça tient dans le cash money, mais je suis pas taiga. Je suis là pour le steak comme les Chicago.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission etc. Nous sommes toujours en compagnie de Salomé Parent-Rajdi et de Nathalie Azoulay. C'est l'heure des conseils lecture de la semaine.
Etc. Lilia Hassen.
Cette semaine, j'accueille Katia Courteau de la librairie Le Port de Tête à Montréal. Bonjour Katia.
Bonjour Lilia.
Et Catherine Manger de la librairie Papyrus à Namur. Bonjour Catherine, vous évoquez aujourd'hui une autre facette de la vie de couple, quand l'équilibre conjugal est menacé par le surgissement de la maladie mentale.
Oui, bonjour Lilia. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre d'une écrivaine belge de langue néerlandaise qui vient de sortir en format de poche dans la collection Babel d'Actes Sud. Il s'agit du livre « Je ne suis pas là » de Lise Spitt. L'autrice va nous emmener dans la vie d'un jeune couple, Léonore et Simon. Ils approchent de la trentaine, ils s'installent dans un petit appartement bruxellois. Lui travaille dans une start-up de communication. Elle, elle est employée dans une boutique de mode. Au début de l'histoire, Léonore reçoit un coup de fil, paniquée, de sa meilleure amie. À ce moment-là, on la voit sauter sur son vélo et on va la suivre dans Bruxelles pendant les 11 minutes qui vont la séparer de son appartement. Donc le roman dure durant ces 11 minutes et l'autrice va nous embarquer dans des flashbacks assez habiles et on va découvrir d'où vient l'inquiétude de Léonore et pourquoi cette course contre la montre. On est dans un livre vraiment haletant, très rythmé, qu'on a du mal à lâcher. Moi, ça, j'aime bien. Mais on est aussi dans quelque chose de très intime, car on plonge au cœur de la vie de ce couple. Et on va se rendre compte que dans la tête de Simon, il y a quelque chose qui vacille, il y a quelque chose qui tremble, qui ne semble plus tout à fait aligné avec le réel. Et là, on touche à plein de sujets importants, car c'est un livre qui va parler de santé mentale. Et ça, ça me semble urgent aujourd'hui de pouvoir parler de ça sans tabou. C'est pourtant pas si facile, comme on le verra pour la compagne de Simon, qui va avoir peur de parler à son entourage et qui va se heurter au monde mondial.
Ça donne envie. Et qu'est-ce qui vous a bouleversé, Catherine ? Vous avez dit que vous aviez été bouleversée.
Oui, le roman, il va montrer toute la pression qui pèse comme ça sur les jeunes, tout ce qu'ils ont sur leurs épaules quand ils doivent commencer à se faire un trou dans le monde professionnel, quand ils doivent être à la hauteur de tout ce qu'on attend d'eux, avoir une vie de couple épanouie, une vie amicale, une vie professionnelle, équilibrée, sans accro, mais en même temps un peu fun, avoir peut-être des enfants. Il y a comme ça une pression assez forte, et quand ça dérape, quand l'équilibre mental vacille, quand un conjoint, un ami semble un peu perdre pied, ben, je trouve ça très difficile de savoir comment réagir. Et c'est ça qui m'a bouleversée dans le roman. Alors c'est un roman qui parle de l'amour, de l'amitié, de nos vies au XXIe siècle, où parfois ben, on se demande un peu où va le monde, quoi. Et c'est un livre qui m'a permis de comprendre toute une réalité que je méconnaissais. Alors je le conseille vraiment à toutes les générations, parce que aux jeunes adultes évidemment, mais aussi aux parents et aux grands-parents de ces jeunes adultes, jeunes parents. Et je le conseille aussi régulièrement aux psys ou aux professionnels qui travaillent dans le secteur de la santé mentale et qui m'ont déjà fait des très très beaux retours de lecture. Donc c'est un roman qui nous plonge dans le monde de la psychiatrie. C'est raconté avec beaucoup de justesse, de finesse et toujours avec beaucoup de rythme, de suspense. Parce qu'en fait, la meilleure amie de Léonore, elle avait de bonnes raisons de paniquer. Mais bon, ça, je vais vous laisser découvrir pourquoi en lisant le roman.
Bon, bah, vous attisez notre curiosité. Merci, Catherine. Le livre, c'est donc « Je ne suis plus là » de Lise Spitt. C'est « Je ne suis plus là », c'est ça, hein ?
C'est « Je ne suis pas là ».«
Je ne suis pas là » de Lise Spitt, et c'est chez Actes Sud. Katia Courteau, vous avez choisi un album jeunesse cette semaine.
Oui, absolument, parce que je trouve que la douceur et l'imaginaire de la littérature jeunesse peuvent réconforter. J'ai eu envie de vous parler cette fois-ci du dernier album jeunesse de Félicitas Sala. Il faut dire tout d'abord que Félicitas Sala est une autrice-illustratrice italienne qui vit à Rome. Elle publie chez plusieurs éditeurs, dont la maison d'édition française Cambourakis, ainsi qu'au Québec, chez Comme des Géants, et aux éditions La Pastèque, où elle a publié, entre autres, ce remarquable album « Si tu épuises tous tes mots », qui est l'un de mes livres jeunesse préférés des dernières années, rien de moins. Et j'en lis beaucoup, et je les aime beaucoup.
Ça, je sais.
Oui. Alors, j'ai été marquée par la beauté de ses mots, de ses illustrations et du message qu'il porte. Les premières pages s'ouvrent sur les images d'une petite fille qui aimerait bien attirer l'attention de son papa. Lui, qui est très occupé à discuter avec des amis, à parler au téléphone en cuisinant ou même à texter. Elle lui pose alors cette question. « Papa, et si tu épuises tous tes mots, il t'en restera assez pour moi ?» Évidemment, ce papa est prêt à toutes les aventures extraordinaires pour la réconforter. Comme, par exemple, aller jusqu'à l'usine à mots chez les elfes, en dessous de la forêt, pour y trouver une bouteille d'infini. Et tout au long de son histoire, Félicitas Sala nous fait voyager dans un imaginaire fabuleux. C'est une artiste amoureuse de la couleur, et dans cet album, elle nous en met plein la vue. Vraiment, elle travaille avec la gouache, le pastel à l'huile, les crayons de couleur et l'aquarelle. Ce mélange de médiums apporte à la fois un effet un peu vaporeux, une profondeur. Alors, c'est une histoire réconfortante pour les enfants sur l'amour parental, mais aussi remplie d'amour, d'humour et d'amour, oui, absolument d'amour aussi, d'aventure et de poésie, c'est de toute beauté.
Et c'est à partir de quel âge ?
Oui, ben je dirais à partir de 4 ans et pour jusqu'à la fin de notre vie.
Parfait. Bah écoutez, merci Katia. Si tu épuises tous tes mots, c'est de Félicitas Sala, donc aux éditions La Pastèque, maison d'édition que je ne connaissais pas. Merci Nathalie Azoulay et Salomé Parent-Rajdi. Je rappelle le titre de vos livres. Pour vous, Salomé Parent-Rajdi, c'est Amour, sexe et terre promise aux éditions Les Arènes. Et c'est une bande dessinée qui donne un peu d'espoir dans une période où on en a bien besoin. Et je recommande vivement le roman de Nathalie Azoulay chez P.O. Toutes les vies de Théo, un concentré d'humour et d'intelligence. Merci aussi à nos libraires du jour, Katia Courteau, Catherine Manger, Sandrine Babu et Alexandre Dimitrievitch. Je rappelle qu'Etc. est une émission France Inter en coproduction avec les médias francophones publics. Merci enfin à mon équipe, Lignan Allom à la réalisation, Fanny Battistel à la technique, Estelle Gap, Virginie Rouzic et Manon Grandière. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.